Bonjour à tous et bienvenue dans cette embellie réalisée par Juliette Gou et Fanny Cohen-Moreau, magistralement préparée par Arnaud Jamin et mise en musique par Valentine Chédebois. À la technique ce matin, Florian Dorimini. Porter son regard cette semaine sur le Scriblerus Club, groupe littéraire fondé au XVIIIe siècle et comptant parmi ses membres les écrivains britanniques Jonathan Swift et Alexander Pope, un groupe qui rédigea pour se moquer de l'excès d'érudition de certains ouvrages, les mémoires satiriques de l'auteur imaginaire Martin Scriblerus, un nom que chacun des membres avait le droit d'utiliser pour signer des textes. Extrait choisi. D'après l'âge, le teint ou le poids d'un individu quelconque, il était à même d'établir une prescription à distance tout aussi bien que s'il était au chevet d'un malade. Il a enseigné à de nombreux médecins modernes comment soigner leurs patients par la seule intuition et à d'autres comment les soigner sans même les observer. Écrivain tourné vers l'absolu, notre invité anime également la revue Ligne de risque aux côtés de François Méronis et Valentin Retz. Il a publié 3 ouvrages cette année, aux éditions Les Échappées avec le dessinateur François Bouc, janvier 2015, Le procès, ouvrage qui rassemble les chroniques couvrant le procès des attentats publié dans Charlie Hebdo. Chez le même éditeur, Notre solitude, qui revient sur son expérience de chroniqueur du procès, et Le désir comme aventure, texte consacré au tableau La mort de Sarda Napal de Delacroix et publié dans le petit format de la collection Mille et une nuits.
L'embellie. Eva Bester sur France Inter.
Bonjour Yannick Hennel.
Bonjour.
Êtes-vous content d'avoir été mis au monde ?
Ça me va. C'est pas très normal d'être mis au monde, mais ça me va.
Ah oui ?
Bah oui.
Qu'est-ce qui est normal, le néant ?
Bah je pense, le cosmos, ça m'a l'air bien sans les humains aussi, non ?
C'est plus joli et plus aéré.
J'ai l'impression, malheureusement, j'en suis séparé du cosmos, puisque j'ai un corps humain comme vous.
On va parler pour vous. Êtes-vous en bons termes avec vous-même ?
Pas toujours. J'essaye de plus en plus, comme tout le monde, j'imagine. Les termes, pour être en bons termes, parce que j'aime bien cette expression que vous venez de dire, j'ai besoin du langage, voilà, tous les jours. C'est aussi pour ça que je m'efforce d'écrire, en fait.
Est-ce que vous vous parlez à vous-même, Yannick Hennel, ou est-ce que l'écriture suffit ? Parce que l'écriture, c'est se parler à soi.
Non, je me parle beaucoup à moi-même. Ouais.
À voix haute ?
Oui.
Vous vous tutoyez ou vous parlez ?
Ben je joue des rôles, en fait. Je ne suis jamais moi-même.
Ah oui ?
D'ailleurs, je me demande ce que ça veut dire, moi-même. Enfin. Mais non, je joue, quoi, comme les enfants, je babille.
C'est le désir d'écrire qui vous donne envie de vous lever. Vos livres sont remplis de réflexions sur la révélation que fut pour vous la littérature. Une littérature à laquelle vous vous êtes entièrement voué, puisque vous avez quitté l'enseignement. Une littérature qui a impliqué un désir, évidemment, un désir dont on va parler tout au long de l'émission. Et aussi un sacrifice qui est une notion récurrente sous votre plume. Dans un entretien sur le site Diacritique avec Arnaud Jamin, à propos de La solitude qui ravage, l'un de vos ouvrages, Yannick Hennel, vous racontez qu'en fait, vous avez écrit ce livre lors d'un mois d'août caniculaire à Paris pendant des semaines, que vous ne dormiez plus, que c'était merveilleux et que vous transportiez avec vous partout un sac de lourdes monographies du Caravage. C'est toujours très proche, enfin on va le voir avec Bataille aussi, mais les notions de désir, de jouissance, de plaisir et de sacrifice et d'abîme.
Oui, peut-être que j'aime bien me faire mal, enfin je sais pas, mais j'aime que l'écriture, j'aime que la passion, que l'amour fou que j'ai pour l'écriture et la littérature, ce soit tangible. Que ça soit lourd aussi, que ça pèse, que ça m'empêche de faire certaines autres choses, notamment de dormir. L'écriture a à voir dans ma vie, hein, avec la nuit blanche, avec le fait de vouloir aller au bout de la nuit, enfin, de chercher aussi une ivresse. Enfin, c'est une recherche, voilà, un peu fiévreuse, parfois maladive aussi, parfois pleine d'empêchements, d'embûches. Et j'aime ça, c'est mon aventure, c'est celle que je me raconte sans cesse, enfin, comme le petit enfant dont on vient de parler, qui continue à babiller. Enfin. Donc effectivement, le sacrifice, c'est pas au sens vraiment religieux, c'est une comédie du sacrifice aussi. Mais pour qu'une expérience soit complète, elle a besoin de négatif, de négativité, voilà.
Mais justement, ce négatif, il est partout. Yannick Hennel, vous êtes un être, enfin vous semblez être un être de désir. Chez vous, le désir se confond avec la littérature. Mmh. Vous dites, dans Le désir comme aventure, « Le désir est ma politique, rien ne nous engage plus ». Mais vous parlez également de la vérité intolérable qui gît au fond du désir. Donc à chaque fois, on y va et puis on peut mourir à chaque seconde.
Bah oui, pour moi, c'est pas contradictoire. Voilà, c'est
une intensité dont vous avez besoin à chaque instant.
C'est absolument une intensité, mais aller vers ce feu-là peut nous consumer. Enfin, c'est comme dans la passion. J'aime bien que ce soit pas inconfortable au fond. Ça serait pas de la littérature si on pouvait se écrire des livres confortables qui seraient, dont je pourrais me satisfaire, enfin des choses qui seraient soit absolument lumineuses, soit absolument, je sais pas, nocturnes, disons. Ça me suffit pas, voilà. J'ai envie de quelque chose que je ne sais pas encore. Au moment d'écrire, même le matin, enfin, je me lève de plus en plus tôt pour ça, pour échapper à toutes les emprises, qu'elles soient familiales, sociétales, je sais pas, même au langage, si, pour que personne n'ait parlé, en fait. En me levant tôt le matin, je sens que je me rends disponible à quelque chose qui est double, qui est toujours double. Ce sont des polarités, vous voyez, où ça brûle et où c'est bon, en fait.
Ça, c'est vraiment une association qui va gouverner à peu près toutes les missions et toute votre œuvre, Yannick Enel. Ça brûle et c'est bon, c'est-à-dire vous vous abîmez, vraiment au sens étymologique du terme, et vous prenez plaisir en même temps.
Mais je pense que ça vaudrait pas le coup autrement, enfin.
Mais il y a la destruction, peut-être.
Oui, enfin bon, c'est pas non plus la destruction. On peut aller vers la lumière sans la lumière forte, je veux dire, sans se brûler pour autant les ailes. Au fond, l'autodestruction, la destruction, elle est plutôt, elle a lieu à chaque instant dans d'autres lieux. Ce lieu dont je parle, qui est un lieu relativement intérieur, au fond. Un lieu où le langage se donne dans son ensemble. C'est un lieu très physique, mais c'est un lieu où on ne meurt pas. Pour moi, le langage, c'est le lieu où les choses ne cessent de ressusciter. Enfin, et j'emploie à dessein ce mot très connoté. Mais le langage, c'est l'éveil, au fond. Et c'est plutôt la société, au fond, qui tue, qui ne cesse de tuer. Enfin, je me sens de plus en plus, au fil du temps, de plus en plus phobique, de plus en plus allergique, disons, aux assignations, qu'elles soient, je sais pas, sociologiques, sexuelles, liées au travail, toujours faire plus d'efforts, toujours être réduit, au fond, à quelque chose. Alors même que ce lieu-là dont on parle depuis quelques minutes, que je m'invente, au fond, chacun se l'invente, ce lieu où ça s'écrit. C'est un abîme, mais qui est plein de joie.
Allons nous encanailler dans cette société, mais en restant dans la joie avec vous, Yannick Enel. Il sera question dans quelques instants de renversement, de littérature évidemment, de Charlie Hebdo, de Marguerite Duras, du Caravage, de Cat Power, de Georges Bataille, de Déborah Lévy, de Piano, de Miracle, de Bach et de Charité. Nous avons jusqu'à 11h.
Je repasserai devant ma maison, je repenserai à maman et à mon chien. maman, maintenant je suis grand et j'aime mes propres ailes. Si tu me voyais, tu serais fière, mais tu n'es plus avec moi sur cette terre.
Morceau Nouvelle-Orléans du groupe La Femme dans L'Embellie sur France Inter. Nous sommes avec Yannick Hennel.
Notre époque accumule des pouvoirs et se rêve rationnel. Mais personne ne reconnaît comme sien de tels pouvoirs. Il n'y a nulle part d'accès à l'âge adulte. Seulement la transformation possible, un jour, de cette longue inquiétude en sommeil mesuré. C'est parce que personne ne cesse d'être tenu en tutelle. La question n'est pas de constater que les gens vivent plus ou moins pauvrement, mais toujours d'une manière qui leur échappe.
1961, le court-métrage critique de la séparation de Guy Debord pour introduire ce que vous aimeriez changer dans la société, Yannick Hennel, destituer l'idée même de pouvoir, renverser la politique. C'est un vaste programme, par où commencer ?
Ah bah oui, puisque vous me posez la question,
bah oui.
Autant y aller franco.
Mais allons-y.
La destitution, oui, c'est une idée... c'était beau d'entendre la voix de Guy Debord, parce que pour moi c'est le dernier aventurier. Peut-être c'est le dernier moment où la politique pouvait prendre toutes les places. Maintenant, malheureusement, elle a pris toutes les places, elle nous a pris, nous. On n'existe plus, au fond. Destituer les rapports de force, destituer le pouvoir, oui, c'est une idée un peu anarchiste, mais c'est une idée très simple. Moi, je ne supporte plus l'idée qu'on soit assigné à aller voter pour telle ou telle personne. La politique, c'est une de mes passions. J'aimerais que le pouvoir soit partagé, tout simplement, qu'il ne soit pas lié à un narcissisme. Il faudrait refonder la Constitution, il faudrait que ce soit des assemblées populaires, vous voyez, comme en Grèce, quand on tirait au sort dans la Grèce antique. Je ne vois pas d'autre solution, parce que sinon on sombre dans le ridicule et dans la tyrannie du ridicule. Et ridiculiser ce qu'on a de plus beau, c'est-à-dire la communauté, le désir de communauté, le désir d'échange, enfin, ça c'est quelque chose que le XXe siècle et le XXIe a réussi à faire. Maintenant tout semble bouffon, enfin, même le fait d'aimer la politique. Donc voilà, il faudrait se passer des individus qui sont tous interchangeables, qu'ils soient de gauche ou de droite, ils sont rien du tout, ils sont à la recherche d'un pouvoir qu'on devrait leur ôter, puisqu'il est à nous.
Mais vous ne pensez pas que si on s'empare de ce pouvoir, justement, on deviendrait comme eux ?
Mais on s'en emparera pas, en fait, dans l'idée de destitution, qui est une très belle idée, qui est aussi celle de Giorgio Agamben, enfin de tout un courant, je dirais, d'extrême-gauche. Mais il y a l'idée d'assemblée, au fond. Personne n'aurait le pouvoir, enfin. J'ai l'air de rêver comme ça, comme un idiot à voix haute, mais ça atteint son point maximal d'infamie, en fait, cette individualisation, vous voyez, du politique.
Je reviens sur une chose que vous souleviez, Yannick Hennel, vous avez dit que la politique avait pris justement toutes les places. Est-ce que c'est pas justement parce qu'on s'en est plus du tout occupé ?
Oui, enfin, je pense que ils ont fait, je sais pas qui a fait en sorte qu'on ne parvienne plus à s'en occuper. On a été désappropriés, on est tous expropriés de nos propres vies. Si on se lève pas très tôt le matin pour écrire ou pour faire ce qu'on aime faire, si on ne se réserve pas des temporalités parallèles, biaisées, des amours secrets, on n'y arrive pas. On est pris au piège. Enfin, au fond, je crois pas tellement à la servilité volontaire. Je pense vraiment qu'il y a une...
Inconsciente.
Oui, au découragement, à la fatigue, mais c'est pas de notre faute, en fait. C'est pas de ma faute, moi. Vous voyez, non, je veux dire par là que ce qu'il en est du politique et de sa perversion nous a menés soi-disant à nous désintéresser de la politique, mais c'est pas vrai. J'ai été professeur pendant longtemps, les jeunes gens s'intéressent passionnément à la politique, de manière balbutiante, vous voyez, tout le monde s'intéresse à la politique. Mais si c'est ça la politique, alors c'est vrai qu'on détourne la tête. Ouais.
Yannick Enel, il y a quelque chose qui m'a fait sourire en préparant l'émission, c'est que j'ai lu que vous aviez passé 3 années au Prytanée militaire de la Flèche.
Oui.
Alors le Prytanée national militaire, c'est l'un des 6 lycées de la Défense. Et en Grèce antique, puisque tout à l'heure vous avez mentionné la Grèce antique, c'est le foyer de l'État, de la police.
Absolument.
Là où se trouve le feu sacré qui ne s'éteint jamais.
Oui.
Et ça vous définit
les
bien
Prytanes.
Ça.
Les Prytanes, oui, oui. Oui, je suis un peu une vestale, vous savez.
Mais vous êtes une vestale.
Mais oui, absolument.
Vous êtes donc
vous
vierge
avez...
et pure et vous veillez le feu sacré.
Ah, j'adorerais être vierge et pure. Mais veiller le feu sacré, je m'y... c'est mon travail, voilà. C'est un travail un peu halluciné, un peu fou, un peu anachronique.
Vous semblez ne pas craindre le chaos, l'anarchie, peut-être même que vous les désirez.
C'est une vaste question, c'est vrai, c'est une question très sérieuse. Je ne saurais pas y répondre comme ça. Je crois que oui. Je crois que j'ai envie de ça. Parce qu'en fait, ce que nous vivons, c'est secrètement pire. Il y a pire que le chaos, en fait. Il y a ce que George Orwell a prophétisé et qui a lieu dans les sphères de la communication, enfin, où on est assigné à l'homogénéisation du langage. Je le ressens très physiquement, enfin, je vous disais, comme une allergie. Enfin. Et donc, le chaos, en vieil anarchiste, parfois, c'est pas que j'en ai la nostalgie, je me dis, voyons voir, enfin, que les choses s'enflamment, voilà. Que la situation explose, comme disait Gombrowicz, avec un point d'exclamation.
Même lorsque vous vous présentez, Yannick Enel, il y a des paradoxes à chaque ligne et vous éclatez le langage. Je pense à cette présentation sur le site de la Villa Médicis, de vous-même, enfin de la figure de l'écrivain. Mmh. Un écrivain est quelqu'un qui se rend disponible à la disponibilité elle-même. Je vais donner quelques extraits. Il perçoit le temps et l'espace en termes d'extase, pense qu'à l'impossible nous sommes tenus, cherche à s'abstraire des horizons qui le renferment, à ne pas se laisser absorber par la communauté, tente de donner un sens nouveau au mot jouissance, se fout de la respectabilité, se sent réfractaire, vit de biais, en lisière, ne fait confiance qu'à la joie, à la concentration, à la ténacité. En toute chose est à la fois le couteau et la plaie, plutôt froid que sentimental, déserteur dans l'âme, n'occupe aucune place sociale, aucune position de pouvoir, se promène, fait des expériences du néant, étudie le contenu des ténèbres.
J'avais oublié ce texte. Ouais, c'est pas mal.
Ouais, c'est pas mal.
C'est un autoportrait...
pluriel, paradoxal.
Ouais, c'est vrai, c'est juste. Bah, je signe.
D'accord. Si vous ne pouviez plus écrire, vous n'auriez plus de raison de vivre ?
Non, 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 c'est pas vrai.
Non ?
Non, 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 bah, je trouverais autre chose, moi. Il y a...
Les gâteaux ?
Les gâteaux ?
Oui, par exemple.
Je vais manger, mais pas les gâteaux, je m'en fous.
non, attention, je vais recevoir des courriers de gâteaux qui vont se sentir stigmatisés.
Je veux dire par là qu'il y a... J'aime m'occuper de certaines personnes. J'aime m'occuper passionnément de ma fille. Ça peut suffire, je pense. Je sais pas, j'essaierai d'être infirmier, tiens. Ou infirmière, ce sera encore mieux. Je sais pas, il y a plein de choses à faire, il n'y a pas que l'écriture.
Yannick Enel, vous êtes un être d'engagement total. Et vous vous impliquez aussi pour Charlie Hebdo, où vous êtes chroniqueur depuis la reprise de la publication après les attentats de janvier 2015, qui ont décimé sa rédaction.
Ouais.
Pendant 55 jours au tribunal de Paris, vous avez usé 21 stylos bi, 16 tubes d'Efferalgan et 8 tubes de Guronzan pour suivre et raconter les audiences du procès des attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hypercacher. Ça a donné lieu à 2 livres, janvier 2015, le procès, avec les dessins de François Bouc, et Notre solitude, où vous revenez sur votre expérience intime de ces événements. C'est un procès qui a bouleversé votre façon de sentir et de penser.
Déjà, la rencontre avec Charlie Hebdo, c'était pas du tout ma culture. Hein. Juste après les attentats en janvier 2015, ça a été de l'amour, je sais pas. C'était la chose à faire. On m'a demandé si je voulais bien écrire des chroniques. C'était Marie Darieussecq qui s'y engageait avec moi. Elle m'a dit, bah, viens. J'ai dit, ok, on y va. Et c'est très déraisonnable. Mais voilà, je les aime, voilà, c'est tout. Et je suis prêt à beaucoup de choses pour eux, alors qu'encore une fois, il y a des choses qu'on partage pas ensemble. Et donc là, suivre le procès, ça a été une expérience stupéfiante pour moi. Ça a changé beaucoup de choses. J'ai du mal à m'en remettre, et je suis assez content de pas bien m'en remettre, parce que j'ai l'impression que précisément ça m'a un peu remis les idées en place. Je suis sorti de ma solitude. Vous voyez, cette solitude, maintenant, je la conjugue à la première personne du pluriel, notre solitude. Je pense que je m'encroutais un peu dans un... Le problème quand on ne fait qu'écrire, c'est qu'il y a un moment, l'esthétique prend le pas sur tout, quoi. On pense que tout est esthétique, qu'une belle phrase va sauver le monde, au fond. Et c'est évidemment un mirage, même si j'ai envie de le croire. Et d'aller tous les jours dans un lieu extraordinaire, qui est un lieu de justice, voilà. J'avais jamais mis les pieds dans un tribunal de ma vie, ça me flanquait un peu la frousse aussi.
C'était le contraire de la littérature pour vous, la loi.
Absolument. C'était même, je pensais même que je me battais contre ça, que la loi, c'est ce qui nous écrasait. Bah, j'étais bête, quoi. Je pense que, heureusement qu'il y a la loi. Mais c'est pas la loi, finalement, c'est la justice, plutôt. La justice qui est aussi une parole, qui est aussi une écriture, mais très démocratisée, démocratique. Voilà, je me suis remis à croire à nouveau en l'idée que la politique et le langage pouvaient se marier, en fait, ou se fiancer, ou faire l'amour, ou je sais pas, enfin, les noces entre la justice et la politique. Voilà, donc Charlie Hebdo m'a offert ça, enfin. Il y avait des choses en jeu énormes, la liberté d'expression, évidemment, le combat contre les extrémismes religieux. Mais c'est surtout ça que je retiens, c'est d'avoir été au contact et de devoir transcrire ça au contact de la justice elle-même. Voilà.
Je n'avais pas besoin de vous inviter à danser pour vous connaître. Et vous le savez.
Je le sais.
Il est tout à fait inutile qu'on aille plus loin, vous et moi. Nous n'avons rien à nous dire. Nous sommes les mêmes.
Je crois ce que vous venez de dire.
Les histoires d'amour, vous les vivez avec d'autres. Nous n'avons pas besoin de ça.
Un film de langage de 1975, India Song, de Marguerite Duras avec Michael Lonsdale, qui joue le vice-consul de Lahore et Delphine Seyrig et sa peau lactée qu'on voit pendant tout le film, Anne-Marie Streeter, qui danse serrée l'un contre l'autre dans cette scène. Ce film fait partie des œuvres qui ont changé votre rapport au monde. Yannick Enel, comment ?
Oh bah, rien que d'entendre ce que vous venez de diffuser, je pleure aussi. Parce que tout simplement, comment dire ça, ce monde de voix off, ce monde d'amour fou.
Car pour les auditeurs qui n'auraient pas vu le film, il faut préciser que presque l'intégralité du film est en voix off,
oui,
racontée par des protagonistes, et que parfois les personnages principaux parlent mais sans bouger les lèvres.
Exactement. On est dans un monde entre vie et mort, au fond. Ce sont des fantômes gracieux. Et je me souviens que Duras disait de Delphine Seyrig qu'elle a une grâce où tout s'abîme. La grâce où tout s'abîme, on parle à nouveau d'abîme. Et bon, c'est un grand film d'amour fou, et c'est surtout... Ça a changé ma perception des choses parce que j'ai vu que même le cinéma, c'était la littérature. Enfin, que la littérature nous précède, que les voix, celles qui viennent de très loin, enfin, qui sont immémoriales, je sais pas, celles que peut-être on entendait à Lascaux dans ce silence, sur ces parois où on allait coller ses mains... même avant, à la grotte Chauvet, enfin, que cette chambre d'écho, elle est là à chaque instant, enfin, dans notre intimité. India Song est une des œuvres, enfin, c'est pas seulement du cinéma, une des œuvres où on se rapproche le plus de cette intimité perdue. C'est un film tragique, c'est un film qui peut paraître très emphatique. J'ai beaucoup d'amis qui supportent pas Duras parce qu'ils trouvent que ça, qu'il y a une solennité prétentieuse. En fait, on est dans une origine, presque effrayante, insoutenable, dans un intraitable. Il y a quelque chose d'intraitable chez Duras qui est l'extase de l'amour fou. Voilà.
Le côté effrayant et intraitable peut se retrouver dans une œuvre que vous avez choisie pour l'émission, Yannick Enel, c'est un tableau du Caravage. Oui. Vous avez juste précisé un tableau du Caravage.
Oui.
Vous avez consacré un livre au Caravage, La solitude Caravage. Je crois savoir que le tableau déclencheur de votre fascination pour le peintre, c'est Judith décapitant Holoferne.
Oui, c'est vrai. Mais dit comme ça, on a l'impression que c'est horrible.
Non, mais un sublime tableau rempli d'effroi.
Bah, c'est-à-dire que moi, je l'avais découvert. J'avais découvert seulement au début le visage de Judith. J'étais tombé amoureux d'une image, enfin, comme un fou, quoi. Et il se trouve que cette jeune femme aux sourcils froncés, au corsage lui-même froncé, qui faisait un effort dont je ne soupçonnais pas la nature, il se trouve qu'elle est en train de tuer un homme. Voilà. Alors, mon éventuel ou imaginaire psychanalyste doit rire sans doute, mais dans les œuvres du Caravage, il y a ça sans cesse. C'est pas seulement Héros et Thanatos, c'est que les points d'intensité dont on parle depuis tout à l'heure ne cessent de se chamailler et de se poursuivre, et il ne cesse d'être le même, finalement. C'est la même chose. Le beau visage pâle de ce lys incarné qu'est Judith et l'instant lugubre, fracassant de la mort, très mystérieusement, c'est le même pigment. Et le Caravage le montre bien.
L'intensité des sensations est précisément ce qui détruit l'ordre. Et je ne crois pas que cela ait d'autre intérêt. Il est essentiel pour les hommes d'arriver à détruire, en somme, cette servilité à laquelle ils sont tenus du fait qu'ils ont édifié leur monde, le monde humain, monde auquel je tiens, d'où je tiens la vie, mais qui tout de même porte avec lui une sorte de charge, quelque chose d'infiniment pesant, qui se retrouve dans toutes nos angoisses et qui doit être levé d'une certaine façon.
Georges Bataille, dans l'émission « Qui êtes-vous ?» du 15 juillet 1951, produite par André Gillois, vous avez choisi de nous parler de son essai « L'expérience intérieure » paru en 1943, qu'il qualifie dans l'avant-propos de « récit d'un désespoir ». Et il dit aussi un peu plus tard dans le livre que c'est un voyage au bout du possible de l'homme. Ça vous ressemble ça, Yannick Hennel ?
Bah écoutez, oui, je sais pas, merci, je sais pas. C'est la, j'ai une grande passion pour Georges Bataille. À une époque, quand je vivais en Italie, j'ai lu les 12 tomes de ses œuvres complètes, comme ça, comme, je sais pas, comme on lirait Dostoïevski, vous voyez, avec un, dans une forme de halètement, enfin, de souffle suspendu. Et c'est pas tant les récits sulfureux de Bataille, qui me paraissent parfois un peu datés, enfin, c'est pas tant sa transgression, que la manière qu'il a de justement d'aller au bout d'une expérience qui est quasiment mystique. C'est un mystique sans Dieu, ou qui attend de Dieu ce que l'absence de Dieu nous offre. C'est un peu étrange, enfin, c'est pas tellement paradoxal. Il y a une place en chacun de nous où la société n'a pas prise, un point de solitude entre le cœur, la gorge, ça dépend de chacun, peut-être le sexe aussi. Il y a un point en chacun de nous, intraitable, où l'idée d'un dieu, de n'importe quel dieu ou d'une déesse, et de son absence, ne cesse de jouer un cortège, une pièce de théâtre, un sacrifice, je sais pas, une cérémonie, qui est le lieu de l'art pour moi. Et je pense que Bataille est celui qui a vécu ça. Enfin, il y a peu de... Vous voyez, à côté de Bataille, des gens comme Camus, Sartre, tout ça, pour moi, ce sont de petits hommes de lettres. Leur œuvre est immense, hein, je les aime aussi, mais ils me paraissent presque fades, vous voyez. Bataille, Nietzsche, Jean Genet, Artaud sont des personnes qui ont vécu ce que je viens de dire intérieurement, ce banquet en eux de la mort et de la joie, ce banquet dionysiaque, quelque chose qui les porte vers autre chose que le fait d'être seulement un homme ou une femme. Et il ne s'agit pas de croire ou ne pas croire en un dieu, ce sont des choses très, très complexes, évidemment, broussailleuses. Enfin. Mais je crois que Bataille se tient là comme un prophète, vous avez entendu sa voix presque onctueuse, on dirait quelqu'un qui, je sais pas, qui a fait le séminaire, il aurait pu. Enfin. Et c'est quelqu'un qui a conscience de la criminalité de l'humanité, mais aussi du fait que seuls les amants connaissent la vérité, au fond, la vérité la plus nue.
À nouveau le désir, le dévouement, l'amour. Je n'ai absolument aucune transition, Yannick Hennel, pour la suite.
Je suis désolé.
Vous me faites penser... Non, mais c'est de ma faute.
Je ressasse, en fait,
non,
depuis 53 ans.
Mais l'émission dure depuis 53 ans.
Mais
nous n'existons pas.
Je me disais aussi...
Non, mais Marguerite Duras disait qu'on buvait pour pallier l'absence de Dieu.
Je me le répète souvent, oui. Mais c'est vrai, d'en écrire, c'est merveilleux. Mais Duras, il y a un entretien, pardon, on divague aussi un peu, mais c'est beau la divagation.
Bien sûr.
C'est le cœur de la chose. Il y a un entretien entre Duras et Bataille qui est époustouflant, je crois en 56, où Duras lui demande une approximation de ce qu'il appelle Dieu et l'absence de Dieu en même temps. Enfin. Et il dit, vous voyez, quand on est dans un train et qu'on voit une vache qui nous regarde, ben, ça pourrait être ça, la souveraineté, cette vache. Et voilà, je ne sais pas très bien ce qu'il veut dire par là, je ne le dis pas pour blaguer, mais je le dis pour y réfléchir à voix haute.
Shoot for the hour, keep the needle running, take every street.
Reprise du titre Bad Religion de Frank Ocean par Cat Power dans l'embellie sur France Inter, toujours en compagnie de Yannick Enel. Je crois que vous adorez aller au concert de Cat Power.
Oui, l'écouter chez moi aussi, mais j'ai eu des expériences de concert de Cat Power merveilleuses, notamment à l'Olympia, où elle était seule au piano, elle n'y arrivait pas. Et c'est cette fragilité-là qui m'émeut chez elle. Enfin, il y a une éthique de la fragilité chez Cat Power. C'est une baudelairienne, enfin, qui fait de son chagrin son propre génie. Et c'est tout le contraire des performances, enfin, de ses musiques formatées. Enfin, elle vient de quelque chose qu'on pourrait appeler le blues. Enfin, la grande plainte la grande plainte immémoriale. Et c'est une poète, voilà.
Alors, elle va sortir un nouvel album le 14 janvier prochain, je le précise. Ce sera un album de reprises de Nick Cave, Iggy Pop, Billie Holiday, Lana Del Rey. Et il y aura des concerts en France en mai et juin.
Bon, ben voilà.
Yannick Enel, pour être armé dans l'existence, vous nous recommandez l'autobiographie de la dramaturge, poétesse et romancière britannique ayant passé son enfance en Afrique du Sud, Deborah Levy, qui a d'ailleurs pour modèle en littérature Marguerite Duras.
Ben voyez, donc tout est cohérent. C'est vrai que c'est une trilogie là, que j'ai lue récemment, j'avais envie d'en parler là.
C'est paru aux éditions du Sous-sol, traduit par Céline Leroy. Ce que je ne veux pas savoir et Le coup de la vie, ce sont les deux premiers tomes.
Voilà, et le dernier qui s'appelle État des lieux, que je viens de lire, c'est traduit merveilleusement. Et c'est une femme qui écrit son autobiographie à 60 ans, mais ce sont des moments de l'autobiographie. C'est un peu, comment dire, un récit initiatique qui est fondé sur une idée très belle, qui est aussi une révolte très belle, qui est qu'au fond, elle aimerait devenir le personnage principal de sa propre vie. Et elle dit, avec raison, elle dit que ce rôle principal, dans ce film qui est devenu l'existence planétaire, ce rôle principal est donné aux hommes. Et comment faire dans une vie de femme pour avoir le rôle principal, ne serait-ce qu'à ses propres yeux. Bon, c'est un... Dit comme ça, ça a l'air très militant, ce qui n'est pas le cas de ses livres. J'aime qu'elle fasse de l'écriture une aventure, en fait. C'est-à-dire que c'est ce qui va mobiliser, c'est ce qui va donner ses directions, même ses voyages. C'est pour écrire. Il y a aussi j'en parle encore 10 secondes, parce que je l'aime énormément, c'est une espèce de coup de foudre récent, Deborah Levy. Et il y a cette rêverie qu'elle a pour la cabane. pour l'île intérieure. Je me souviens bien, dans je ne sais plus quel volume, Le Coup de la vie,
oui.
Elle loue une petite cabane dans le jardin,
oui,
chez une dame, voilà, d'une amie. Parce qu'elle n'a pas ça chez elle, elle vit dans un petit appartement avec ses filles, je crois. Donc elle loue une cabane. Parce qu'elle pense avec raison que l'écriture est un lieu, enfin, un lieu à trouver.
Elle y écrit 3 livres dans cette cabane.
Ouais.
Dans Tiens ferme ta couronne, Yannick Hennel, vous écrivez « Je crois que si l'on n'espère pas un miracle, rien n'arrive. Ce qui ne tend pas vers le miracle rend servile. » Là, on entend un morceau de 1961, « Miracles » de Sister Rosetta Tharpe. Un miracle, c'est ce que vous aimeriez accomplir au cours de votre vie.
Oui.
Quel type de miracle?
Alors, c'est pas pour m'y croire. Enfin, c'est pas... C'est... Je ne sais même pas si c'est le fait que j'aimerais moi accomplir un miracle, mais j'attends un miracle de la vie. Mais c'est la vie même, enfin, on ne cesse de s'initier à quoi, à rien d'autre qu'à la vie. Je tends vers le miracle chercher à écrire de la littérature, on ne sait jamais si on fait de la littérature, mais chercher à écrire tout le temps, c'est être plein d'espérance. Espérance pour le fait qu'une phrase n'est pas qu'une phrase. Qu'en elle se prodiguent des sèves, des nectars, des choses inouïes, enfin, qui se lèvent. Et j'attends ça de la vie, oui, enfin, pas comme un ravi de la crèche, enfin, mais plutôt qu'à des actes. On revient à la conversation politique qu'on a depuis tout à l'heure. Plutôt qu'à des actes, j'attends des renversements. Des révolutions, enfin, j'utilise ce mot qui est tellement galvaudé et que j'aime toujours. J'attends quelque chose, oui, le miracle, c'est le prodige, voilà, un désir de prodige. Je pense qu'au bout d'une phrase qu'on écrit, au bout d'un soupir amoureux qu'on entend, il y a quelque chose qui renverse tout, enfin, sinon c'est pas la peine, enfin, voilà, le désir de prodige.
Extrait des variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach, enregistré par Glenn Gould en 1980 pour la deuxième fois donc, puisque la première eut lieu en 1955. Yannick Hennel, vous avez choisi tout Bach par Gould, vous en parlez dans Notre Solitude, vous l'écoutiez allongé avec votre épouse et vous l'écoutiez dès que vous écriviez, tous les jours. Une répétition qui rythme votre vie, la relance, l'approfondit, vous évoquez sa clarté bienfaisante.
Oui, j'écoute ça tous les jours depuis je sais plus combien d'années. Quand je me lève le matin, c'est ce que je fais en premier. Enfin, quand j'ai la chance de pouvoir écrire tout de suite sur l'ordinateur, vous voyez, je branche, j'ai un fichier où je lance ça et ça dure 8 heures, enfin plus. Enfin, j'aurais adoré savoir jouer du piano et je sais pas, je saurais jamais. C'est trop tard, c'est fichu. Mais ça, je sens qu'il y a une rythmique qui est celle de l'être même. C'est presque ontologique. Enfin, c'est comme ça que je sens la saccade de la respiration, des battements de cœur. Enfin, c'est ce qu'on vient d'entendre. En plus, on entend la voix de Glenn Gould qui chantonne dessus. C'est tellement beau. Et comment dire ça ? Oui, c'est plus qu'une passion. C'est devenu, j'ai l'impression qu'il habite avec moi, cet homme, qui est évidemment merveilleux. J'ai pas besoin de le souligner. Glenn Gould, c'est l'artiste tel que je rêve, non pas de l'être, mais tel que j'imagine que c'est. C'est ça, un artiste. C'est quelqu'un qui est dévolu absolument à une tâche unique qui se répète.
C'est la beauté que vous recommandez aux auditeurs pour l'émission.
Ouais, je crois qu'il n'y a rien de plus beau, là. Je sais pas, c'est même pas très original. Enfin, je crois que c'est ce qu'il y a de plus beau. Enfin, je ne me lasse pas. Enfin, j'aurais pu dire les illuminations de Rimbaud, mais ça que vous venez de nous faire entendre, franchement, voilà, je devrais me taire, quoi.
Mais je voulais vous demander de ne pas vous taire, Yannick Enel, puisqu'on arrive à l'engagement de fin d'émission. Ah. Et le vôtre, c'est de faire la charité sans réticence. Quelle forme prendrait cette charité ?
Alors ça, c'est vrai que ça demande beaucoup de mots pour enfin savoir se taire. Je crois que la caritas, enfin, l'amour désintéressé, qu'on appelle la charité, qui n'est pas nécessairement chrétienne, hein, j'emprunte ce mot au catholicisme parce qu'il est beau. Au début des Illuminations de Rimbaud, d'ailleurs, il dit ça, la charité est cette clé. La clé de quoi ? Bon, à chacun de trouver. J'aimerais, je fais la charité au sens où je fais partie de ces personnes qui donnent sans cesse à Paris, où on est sollicité dans le métro, partout. Bon, ça a agacé au début mes amis, mais je sens bien que la charité, il y a toujours plus que la charité, enfin la charité est en excès sur elle-même. Je sens bien que je sélectionne, c'est horrible. Il y a des gens comme ça qui me demandent de l'argent et je me dis, oh, lui, je sais pas. Soit que j'en ai pas ce jour-là, je pourrais lui donner autre chose, mais je le fais pas. La charité sans réticence, sans choisir, ce serait devenir enfin un saint. Alors ça, qui est évidemment bien trop grand pour moi, c'est un rêve. Je sais pas si c'est un cauchemar d'ailleurs d'être un saint, parce que je sais que la vie de saint François d'Assise, qui est l'une des personnes que j'admire le plus au monde, était très difficile. Enfin, il était très malade. Enfin, mais de vivre intensément chaque instant comme un saint, on revient à ce qu'on disait au début, ça c'est la vraie extase et en même temps une souffrance effrayante puisqu'on ressent tout le poids du monde, tout le malheur du monde. Alors, je me prends pas pour tout ça, mais je me dis là vraiment être capable de donner sans compter, et pas seulement sans compter, sans savoir à qui on donne ni pourquoi, ça serait enfin de l'amour. Est-ce que j'en suis capable ? On verra bien.
Extase, effroi, amour, on termine sur ça. Merci beaucoup, Yannick Enel, d'être venu dans cette émission.
Merci à vous.
Notre solitude est parue en octobre aux éditions Les Échappées. Il y aura une rencontre autour du livre à la Maison de la Poésie à Paris le vendredi 7 janvier, en dialogue avec Arnaud Jamin, dont le nom nous est familier, et une lecture d'extrait par la comédienne Marie-Sophie Ferdan. Dans vos dernières parutions, il y a aussi Le désir comme aventure sur le tableau La mort de Sardanapale de Delacroix aux éditions Mille et une nuits, et avec le dessinateur François Bouc, janvier 2015, Le procès aux éditions Les Échappées. Je signale aussi dans les podcasts France Inter, Au lit pour les enfants, Lucia Petite Poète. N'hésitez pas à aller écouter d'ailleurs aussi Messidor et les bananes de compagnie d'un auteur appelé Bester. Chers auditeurs, toutes les références vous attendent sur le site de l'émission, nous sur les réseaux sociaux. J'espère que vous êtes aussi flamboyants qu'un accent circonflexe à brushing télévisuel. Rendez-vous dimanche prochain à 10h10.